explorer le yin et le yang, symbole de la sagesse chinoise, pour équilibrer, renforcer et harmoniser notre corps, notre énergie et notre esprit.
Ensemble, cheminons sur les sentiers du bien-être. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Les Sentiers du Bien-être où on retrouve Nadine Bertrand qui est acupunctrice au Centre Présence à Saint-Jean-en-Royans. Bonjour Nadine.
Bonjour.
Alors Nadine, cette émission que tu nous proposes donc depuis quelques mois, elle nous propose donc de nous intéresser à la manière d'adapter au mieux notre corps, notre mental et notre énergie aux saisons qui rythment notre planète en se basant donc sur les principes de la médecine traditionnelle chinoise. Et après donc les intersaisons et le printemps qui faisaient l'objet des deux premières émissions, on vous propose de s'intéresser aujourd'hui plus spécifiquement à l'été.
Oui, l'été. L'été, si je peux faire référence à l'ouvrage Le Sōwen, qui est un ouvrage très ancien puisqu'il est deux fois millénaire. Et dans le chapitre 2, on parle de l'été en disant que les trois mois de l'été sont appelés proliférer et développer la fleur. Les souffles du ciel et de la terre s'entrecroisent, les 10 000 êtres fleurissent et fructifient. Voilà, on va vraiment parler de croissance et d'épanouissement, hein. La nature prospère, la lumière est partout, c'est vraiment ça le plein été. L'été poursuit et parachève le mouvement Yang, qui a été lancé par le printemps, comme on l'a évoqué la dernière fois, et la croissance va s'accélérer jusqu'à la pleine maturité. Et en fait, cette maturité est également présente dans notre cycle de vie, symbolisé par l'âge adulte, tout simplement. Et nous avions évoqué que le printemps représentait la jeunesse, le jeune yang, dans la suite logique, l'été équivaut à l'âge adulte, le grand yang.
Et alors, selon la vision chinoise, à quel moment exactement va commencer l'été?
Alors là, ça devient intéressant parce que les mois d'été ne correspondent pas au calendrier civil occidental, hein, le fameux juin, juillet, août. Le calendrier énergétique chinois, comme je l'expliquais déjà au dernier podcast sur le printemps, est basé vraiment sur les mouvements du soleil et de la lune, plaçant ainsi les solstices et les équinoxes au milieu des saisons plutôt qu'au début. Et donc l'été énergétique dure environ 72 jours. L'été commence généralement début mai et se termine fin juillet. Alors pour 2026, ça va donner un début d'été le 5 mai, l'apogée et le solstice d'été qu'on connaît bien sûr le 21 juin, et puis la fin de l'été pour le 18 juillet. En mai, ça correspond à la lumière et la chaleur qui va augmenter déjà fortement, mais c'est juste la naissance du yang de l'été. Le 21 juin est considéré en médecine traditionnelle chinoise comme le sommet du yang, le moment où la chaleur est la plus pure, après quoi le yin commence déjà subtilement à renaître. Et si une fois encore on fait l'analogie entre les saisons de notre planète et la période de vie, le mois de mai va s'apparenter à l'adolescence en fait. Et oui, cette adolescence qui marque vraiment cette transition dans notre vie où on n'est plus au printemps et pas encore à l'été, ce qui veut dire qu'on n'est plus enfant mais pas encore adulte.
Alors on évoque que la fin de l'été donc sera le 18 juillet, mais alors que va-t-il se passer à partir du 19 juillet? Est-ce qu'on est déjà en automne?
Ben non, car rappelons-nous, je fais référence là au premier podcast qui parlait des intersaisons, parce qu'à partir du 19 juillet environ, jusqu'au 6 août, on entre dans la période de transition appelée intersaison, et donc la cinquième saison liée à l'élémentaire, hein, qui fait ici le pont avec l'automne.
Et d'ailleurs, pour en savoir plus, n'hésitez pas à réécouter la toute première émission donc des Sentiers du Bien-être qui parlait spécifiquement des intersaisons. Donc vous pouvez réécouter la chronique sur radioroyant.fr. Et d'ailleurs, ça me questionne sur l'intersaison de l'été. Ça commence quand, cette intersaison?
Ça fait à peu près le 15 avril, 15 avril jusqu'au 4 mai, en fait.
Alors Nadine, est-ce que tu peux nous décrire l'été au travers du regard de la médecine traditionnelle chinoise?
Alors l'été, c'est la période de l'année où l'énergie yang atteint vraiment son apogée. Hein. Enfin, c'est la saison de l'expansion maximale de la chaleur et de la lumière. Cette saison est apparentée au point cardinal sud. L'été représente, du point de vue physiologique, la saison du cœur et de l'intestin grêle. Et on va voir que c'est important parce qu'en médecine traditionnelle chinoise, il y a deux visions du cœur. Il y a le cœur de chair et de sang et il y a le cœur spirituel. Et en fait, les fonctions du cœur de chair et de sang, bah, on les connaît, hein, c'est celle de gouverner le sang et les vaisseaux, hein, c'est lui qui va faire circuler le sang dans l'ensemble du corps. Mais par contre, les Chinois vont rajouter une fonction spirituelle, enfin des fonctions spirituelles, qui vont être que c'est le maître suprême des organes, puisque en médecine traditionnelle chinoise, on voit le corps comme un royaume et le cœur en est l'empereur. Donc, il est également le lieu de résidence de l'esprit, le chön. C'est vraiment un organe très important et l'esprit, c'est vraiment cette énergie spirituelle qui va s'exprimer en tant que conscience. C'est la clarté mentale. C'est ce qu'on dit d'ailleurs, que le cœur est le champ de conscience, en fait. Donc, il va centraliser aussi toutes les données psychiques et émotionnelles émanant des autres organes. Donc, c'est vraiment le centre de nos émotions, le cœur. Et donc, il est associé à l'intestin grêle. Alors, là aussi, sur le plan physique, on connaît le rôle de l'intestin grêle qui est de séparer le pur de l'impur. Hein. C'est là où se fait le premier tri du bol alimentaire, en fait. Il est fait au niveau de l'estomac, certes, mais après, au niveau de l'intestin grêle, lui, il va extraire le côté pur, l'essence des aliments, en fait.
Ce qui nous est utile, quelque part, les nutriments,
c'est ça. C'est ça qui va aller le transmettre à la rate. Et par contre, les déchets, ce qu'on peut appeler l'impur, bon, va être conduit vers le gros intestin pour être évacué du corps. Et lui aussi a une fonction spirituelle. Parce que quand on y réfléchit, ce côté séparer le pur de l'impur, bah, c'est aussi donner la faculté de discerner les choses, ce qui est bon de ce qui l'est moins, ce qu'on va garder de ce qu'on va rejeter.
Et alors, il y a une émotion particulière qui est en lien avec le cœur ?
Oui, c'est la joie. La joie est vraiment bénéfique pour le cœur parce que, en fait, le cœur, il doit pulser le sang dans tout le corps. Et la joie, c'est vraiment ça. Hein. Quand ça pulse, ça rayonne, on distribue cette belle énergie dans l'ensemble de notre corps et même autour de nous. Hein. Mais bon, comme d'habitude, rien n'est bon dans l'excès. Hein. Trop de joie peut aussi amener une dispersion forte de l'énergie et on peut s'évanouir pour le coup. À l'inverse, un manque de joie va affaiblir l'énergie du cœur. Alors, on peut parler aussi, quand on parle de joie, on parle aussi d'amour. L'amour s'exprime vraiment à travers la joie. Quand on tombe amoureux, d'ailleurs, on dit qu'on s'enflamme. On a des palpitations, le visage est rouge, on va transpirer. C'est vraiment tous des éléments qui sont rattachés au cœur, quoi qu'il en soit. L'humour également, l'humour s'exprime aussi à travers la joie. La parole, mais aussi le rire. Et surtout le rire, j'ai envie de dire, dissipe l'énergie trop concentrée et permet l'extériorisation des émotions contenues. C'est vraiment libérateur. Donc il ne faut pas hésiter à rire.
Le bon conseil de Nadine,
voilà.
Rire et rire.
Ah oui, il y en a qui disent que ça vaut un steak. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça vaut le coup de rayonner.
Surtout en été, donc.
Et donc oui, à contrario, quand on voit parler ou rire sans arrêt, sans à propos ou encore ne jamais rire, ça va signaler aussi un déséquilibre de l'esprit et de l'énergie du cœur. Quand l'énergie du cœur est saine, et par sa place d'empereur, hein, elle participe à une grande partie de l'équilibre énergétique des autres organes, hein, celle-ci nous permet une élocution claire et tempérée. Donc voilà, ça c'est aussi des signes qu'on peut comme ça observer pour voir l'état d'esprit et du cœur d'une personne si elle a des difficultés d'élocution. Et donc cette émotion du cœur et la joie, elle va vraiment rayonner tout comme le soleil pendant l'été, hein, quoi qu'il en soit. Et cet été, c'est vraiment une représentation parfaite à travers l'élément feu.
Oui, parce que chaque saison est associée donc à un élément particulier. Et donc pour l'été, donc tu le disais Nadine, c'est l'élément feu. Quelles sont les caractéristiques de cet élément ?
Alors, le feu est yang, hein. C'est vraiment l'élément le plus yang. Et l'été, c'est vraiment le yang à son paroxysme, qui va signer aussi la mobilité et l'action caractéristique qu'on va mettre en place l'été. Hein. On est plus actif. Et dans la tradition chinoise, la couleur rouge représente le feu, symbolisant la puissance et la vitalité. C'est pour ça d'ailleurs que c'est une couleur qui est très utilisée en Chine, et d'ailleurs sur leur drapeau. Portés par cette énergie vive en été, nous nous ouvrons au monde extérieur et diversifions nos activités. Le soleil, bien sûr, va nous encourager. Hein. Nous pouvons nous lever plus tôt, voire très tôt, et nous coucher plus tard. Ça, on est vraiment dans cette manifestation du yang.
Les besoins en sommeil sont en fait un peu inférieurs à ceux qu'on peut avoir en hiver, par exemple.
Carrément, parce qu'en fait, comme on est axé sur la lumière, la luminosité, comme elle est beaucoup plus présente, eh bien nos journées peuvent être plus longues et on peut encaisser ces journées-là, quoi.
Sans être fatigué particulièrement.
On va voir après, c'est pas si simple. Parce qu'en fait, oui, l'été, c'est vraiment le moment où on veut bouger. On a envie de sortir. Hein. D'ailleurs, on a déjà mis en route des choses au printemps, mais là, l'été, c'est vraiment là où on va plus accélérer nos activités. Et bien sûr, l'idée, c'est de pas non plus abuser du plein soleil, parce que il peut s'avérer quand même dangereux pour nous. Mais c'est le moment de voyager, de faire du sport. L'été, c'est souvent synonyme de festivité également. Hein. On a envie de festoyer, de communiquer. Et d'ailleurs, on est des êtres titre de relation. Hein. Donc je suppose bien que l'agenda, on le voit bien d'ailleurs, vous avez sans doute une chronique agenda beaucoup plus longue l'été.
C'est vrai, ouais.
Parce que voilà, c'est vrai qu'on a envie de faire un tas de choses. Et puis c'est vrai qu'il y a un proverbe chinois que je trouve qui illustre bien cette dimension sociale et relationnelle qui dit « un homme seul n'est pas un homme ». Parce qu'en fait, voilà, on a vraiment besoin des autres et d'échanger avec les autres. Alors, comme dans tout, il faut toujours être vigilant pour pas non plus être trop agité, trop excité, hein, parce que sinon on gaspille notre énergie. Et là, on peut se retrouver complètement épuisé.
Et alors, comment trouver cet équilibre? Comment peut-on éviter cet épuisement, mais sans être pour autant dans la frustration de ne pas profiter pleinement de l'été?
Et bien là, bien sûr, une fois encore, la sagesse chinoise nous encouragerait à plus observer et écouter la nature qui nous entoure. Hein. Un corps nourri au fil de l'année par les énergies propres à chaque saison se régule de lui-même et ses envies se tempèrent. Aussi, si nous avons respecté un temps de repos en hiver, nous pourrons d'autant plus profiter de notre été.
Et si on n'a pas suivi tes bons conseils, Nadine, et si on ne s'est pas suffisamment reposé en hiver, comment fait-on ?
Eh ben, c'est vrai que c'est le côté délicat, surtout quand on habite dans les montagnes du Vercors. Royan-Vercors, on est attiré par le ski et l'activité l'hiver. Mais bon, si notre hiver a été bien trop rempli, nous essaierons de nous raisonner au prochain, j'ai envie de dire, en ayant en tête ce podcast d'aujourd'hui. Donc l'avantage de pouvoir le consulter tout le temps,
sur
toute l'année,
internet.
Voilà. Et de le remettre avant l'hiver prochain, avoir en tête de préparer notre année, dès le mois de janvier peut-être, des bonnes résolutions, même si ça se fait avant d'ailleurs, mais bon. Il est vrai qu'au regard de la MTC, des grandes vacances en saison estivale plutôt qu'en hiver constituent vraiment une aberration en fait. Parce qu'on va se reposer pendant la saison la plus active et on va s'activer pendant la saison propice au repos.
Mais alors, est-ce qu'on peut faire quand même quelque chose? Que peut-on faire?
On peut toujours appliquer quelques conseils, c'est l'avantage. J'aurais envie de dire qu'en premier conseil, on va parler de comment préserver notre énergie par rapport à nos activités physiques en été. Parce que bon, ok, l'été, c'est l'activité physique, mais c'est aussi une lame à double tranchant. Parce que ça va permettre de faire circuler le yang, d'être en activité physique, mais ça peut être vite, on peut très vite aussi épuiser notre yin. Et le yin, c'est ce qui va correspondre à nos réserves de liquide. C'est aussi le côté calme que nous avons. Tout ça à cause de la chaleur, en fait.
Alors, on a quelques règles d'or à donner à nos auditeurs, à nos auditrices, donc pour bouger, mais sans se consumer, entre guillemets.
Oui, c'est tout à fait ça, sans se consumer, parce qu'en fait, on va appliquer ces règles. Et la première serait de pas trop de sueur. Je m'explique. En fait, en médecine traditionnelle chinoise, il existe un adage crucial qui dit que le sang et la sueur ont la même origine. Ça veut dire que les deux sont liés au cœur. Donc, puisque le cœur gouverne le sang et que la sueur est le liquide du cœur, une transpiration profuse et violente épuise directement l'énergie cardiaque. Donc, le conseil, en fait, serait de privilégier des activités où la transpiration reste perlante, mais pas ruisselante. Et si vous finissez trempé et épuisé, c'est que vous avez brûlé vos yin, en fait, les liquides. Et là, en principe, on peut aller jusqu'au malaise. Hein. D'ailleurs, ça va donner des palpitations ou des vertiges après l'effort. Sinon, l'idée aussi, ça serait de suivre, bien évidemment, le mouvement du soleil. Hein. Alors ça, c'est des choses qu'on a déjà en tête. Hein. On a déjà plus ou moins ce réflexe de ne pas s'exposer aux heures les plus chaudes. Mais on va surtout, nous, en médecine chinoise, se caler sur l'horloge circadienne, en fait, qui est l'horloge biologique interne, basée sur le cycle énergétique des organes. Et on peut retrouver, d'ailleurs, cette horloge facilement sur Internet. Hein. On tape « horloge circadienne des organes » et on retrouve. Alors, l'idée, c'est quand même de faire attention, parce que toutes les heures mentionnées sur les horloges font référence à des heures solaires. Donc, nous devons rajouter 2 heures en été et 1 heure en hiver pour la lecture de cette horloge. Et cette horloge nous dit que l'énergie du feu est à son apogée entre 11h et 13h, c'est l'heure du cœur. C'est le moment où le soleil est le plus agressif, en fait. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, dans l'idée, ça serait de privilégier le sport plutôt tôt le matin, entre 5h et 7h. C'est les heures du gros intestin, ça purifie vraiment le corps. Et ou à la fin de la journée, mais sur des activités beaucoup plus douces, parce que là, on est sur des phases, on rentre dans le yin. Et à ce moment-là, le yin, c'est plus quelque chose de calme, de doux. Bien sûr, éviter le sport en haute intensité entre 11h et 15h, parce que là, c'est vraiment, après tout, le moment idéal pour aller faire la sieste, et ça permet aussi au cœur de se reposer. Il y a une troisième règle, c'est celle de choisir des activités beaucoup plus fluides. Alors, c'est des choses qu'on va faire aussi naturellement. C'est-à-dire que l'été, on va aussi aller vers une recherche de notre fraîcheur. Et on va le trouver à travers la natation, par exemple. La natation, c'est l'activité reine, hein, puisqu'on est dans l'élément eau. L'eau va naturellement tempérer le feu. Et donc, ça peut permettre aussi un effort cardiovasculaire sans surchauffe. La marche en forêt également est très intéressante parce que le bois est représenté par les arbres ici. Et le bois, normalement, c'est l'élément qui va nourrir le feu de manière harmonieuse. Et en même temps, la forêt nous offre de l'ombre. Donc ça, c'est le côté yin de la situation. À chaque fois, hein, de toute façon, les Chinois travaillent avec cette complémentarité yin-yang, cette opposition également. Le Qigong ou le Tai Chi, ça c'est des disciplines qui vont vraiment nous aider à travailler le souffle sans accélération cardiaque brutale. Et c'est vraiment idéal pour maintenir l'esprit au calme. Et puis vous avez la dernière règle, la quatrième règle qui serait la récupération stratégique en fait, où on dit qu'après l'effort, le corps est très ouvert. En fait, les pores de la peau sont complètement dilatés pour que la sueur puisse sortir, hein, parce que l'excès de chaleur va être évacué comme ça, hein, par le corps. Et en fait, l'erreur classique, c'est vraiment d'aller prendre une douche glacée ou boire des boissons fraîches sortant du frigo, parce que cela crée un choc thermique qui va bloquer l'énergie et peut causer des douleurs articulaires ou des douleurs digestives immédiates. Hein. On peut se retrouver avec des douleurs au niveau du ventre assez terribles. Alors, le bon geste, à contrario, ça serait vraiment de boire de l'eau tiède ou à température ambiante, en tout cas, et ce, partie de gorgée. Et puis, on va attendre que la transpiration s'arrête naturellement avant d'aller prendre une douche plutôt tiède.
Donc voilà pour ce qui est de l'activité physique, mais on parlait aussi du fait que l'été était une saison plutôt sociale, où on a envie de faire beaucoup de choses et de voir beaucoup de monde. Mais on a quand même un deuxième conseil pour les auditrices et les auditeurs, c'est la manière de préserver notre énergie lors de ces interactions sociales en été.
Eh ben oui, tout à fait. L'été, c'est vraiment la saison du partage et de la fête. Hein. Mais pour la médecine traditionnelle chinoise, ces interactions intenses peuvent parfois épuiser aussi le feu du cœur et agiter un peu trop notre esprit. L'idée, c'est pas de rester dans notre grotte, bien évidemment, mais de voir comment profiter de ces moments de partage avec les autres tout en gardant un équilibre énergétique. Et donc, c'est vrai que la première règle serait vraiment de protéger notre empereur, hein, qui est notre cœur. Donc, il ne peut pas être exposé directement aux agressions. Mais par contre, voilà, l'idée, c'est apprendre à dire non, déjà. Ça, c'est un bon conseil. Aux sollicitations qui nous mettent pas forcément en joie. Parce que, on le rappelle, hein, la joie, c'est vraiment l'émotion qui est rattachée au cœur. Et c'est ce qui va faire que je vais avoir du plaisir à aller voir un tel, à écouter un concert ou aller au cinéma, je ne sais quoi, enfin, ou à une soirée. Mais en tout cas, si je me force à le faire, là, on est sur quelque chose plutôt qui va générer de la chaleur toxique. Et qui va amener de la frustration. Je ne m'écoute pas. Et ça, c'est quelque chose qui blesse le cœur. Alors, il y a un signe d'alerte, j'ai envie de dire, hein, si on rit nerveusement ou qu'on parle sans discontinuité en société, c'est que notre cœur est un peu débordé. Donc voilà, il faut être attentif à ça. Et puis, la deuxième règle serait aussi que attention à la dispersion de l'esprit. Hein, parce qu'en fait, le feu a tendance à monter, à s'éparpiller. Hein, trop de stimulation sociale. Alors, notamment si on est dans une soirée ou dans une fête en journée, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de discussions autour de nous. Tout ça, ça va fragmenter notre attention. Hein, et donc, ça nous disperse. Et donc, l'idée, ça serait plus facilement de pratiquer ce qu'on appelle la présence réelle. Et on dit que dans ce cas-là, il vaut mieux une discussion profonde avec une personne que 10 conversations superficielles qui vident vraiment nos batteries, en fait. Parce qu'en plus, on n'arrive même pas à suivre. Donc, ça nous demande trop d'attention. Donc, il ne faut pas hésiter à se recentrer également. Et puis, peut-être que s'il y avait une petite astuce, c'est que entre deux événements sociaux importants, il faut pas hésiter à se faire des temps de pause et des temps de pause vraiment importants dans le sens où on va y mettre du silence, on va peut-être fermer les yeux de façon à ce que, on le dit comme ça, c'est-à-dire on ramène l'esprit à la maison, on ramène le chun à la maison. Et la maison, c'est dans la poitrine, c'est dans le cœur. Et bien sûr, économiser nos liquides. Là, je suis en train de vous parler et je passe beaucoup de salive. Donc voilà, en fait, c'est ça l'idée. Hein. C'est, normalement, il fallait parler moins. Donc la médecine traditionnelle chinoise dit que la sueur est le liquide du cœur et que la langue est son bourgeon. Et oui, parler trop et trop fort en plein soleil épuise l'énergie du cœur. Donc là, ça va, on s'est mis à l'ombre. Mais l'astuce, en fait, serait que pendant une soirée animée, il faudrait boire de l'eau à température ambiante par petites gorgées. Cela soutient le yin du cœur, donc le liquide qui va calmer le feu, et évite l'irritabilité en fin de soirée. Voilà, on prend... ça suffit de prendre sur soi.
Et enfin, on passe au troisième conseil maintenant. Comment préserver notre énergie par le biais de la diététique cette fois-ci en été ?
Alors là aussi, comme on l'a évoqué pour le printemps, la diététique a aussi son importance par rapport à la saison d'été. En effet, hein, en médecine traditionnelle chinoise, c'est la saveur amère qui est associée à l'élément feu et au système cœur-intestin-grêle. Mais c'est une saveur qui est très puissante en fait. Et donc, elle doit être vraiment utilisée avec discernement parce que sinon, on peut aller vers des complications parce qu'elle possède une action descendante et une action asséchante. Alors... descendante, on va parler plutôt de drainage, elle draine. En fait, drainer la chaleur et le feu, c'est vraiment son indication majeure à cette saveur amère. Et donc, elle est utilisée pour calmer les inflammations, les fièvres et les excès d'énergie dans le haut du corps notamment, hein, parce que le feu va se manifester plutôt dans le haut du corps. Donc, tout ce qui est les yeux rouges, l'irritabilité, les aphtes, c'est tout du feu. Elle va permettre de faire descendre l'énergie quand celle-ci est inversée. Par exemple, elle va traiter la toux. Quand le poumon, l'énergie du poumon remonte de trop, ou les vomissements, hein, ça c'est quand l'énergie de l'estomac remonte. Et normalement l'estomac, ça ne fait que descendre. Évacué par le bas, et oui, de nombreuses plantes amères ont un effet laxatif aussi, comme la rhubarbe hein, par exemple, hein, pour libérer les intestins en cas de chaleur interne. Et puis, donc il y a aussi cette autre propriété qui elle va assécher. Elle va assécher l'humidité. Et en effet, elle est efficace pour traiter les syndromes d'humidité-chaleur, comme certaines infections urinaires, les œdèmes ou les problèmes de peau suintante. Alors, attention, hein, on est bien d'accord, on parle d'une saveur puissante de par le fait qu'elle agit déjà directement sur l'empereur. Donc, on doit vraiment l'utiliser en petite quantité, hein, car en excès, elle peut le blesser. Bah, pourquoi elle va blesser le cœur ? Bah, tout simplement puisqu'elle draine la chaleur, ça veut dire qu'elle refroidit. On n'est pas censé refroidir le cœur. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand
donc
même.
Parce qu'on y va avec parcimonie.
Voilà, c'est ça. Parce que si on a le cœur froid, ça c'est une belle expression, hein, mais en vérité, dans le premier sens du terme, ben voilà, on est de l'autre côté. Donc, elle a une action aussi, cette saveur amère au niveau de la rate et de l'estomac, parce que avec son côté asséchant, elle peut aussi léser les liquides organiques. Hein, et l'estomac et la rate ont besoin d'humidité pour pouvoir digérer et transformer. Et ça, on peut le remarquer, quand on prend un peu trop de saveur amère, ça va nous provoquer une peau sèche, voire même de la constipation, en fait. Alors... c'est vrai que déjà en été, la chaleur ambiante a tendance à assécher le corps, alors consommer des aliments amers va renforcer cette tendance.
Et est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'aliments amers ?
Alors oui, alors c'est aussi des choses qu'on peut trouver sur Internet, hein, mais l'amertume va se trouver quand même dans de nombreux produits du quotidien, hein, comme alors au niveau des légumes, on a tout ce qui est endives, chicorée, pissenlit, artichaut, les laitues, donc les salades en général en fait. Au niveau boisson, bah, ça va être le thé vert, surtout si on l'infuse longtemps. Le café, la bière, notamment celle à base de houblon. Au niveau des plantes, eh ben, ça va être la gentiane, ça va être de la rhubarbe, ça va être le tabac, ça va être la verveine. Et sinon, vous avez aussi, dans un plus divers, vous avez le blé, la peau des agrumes, les abricots, le cacao pur, la viande de mouton, enfin voilà, et plein d'autres.
Et alors, quand est-ce qu'on doit utiliser cette saveur amère et quand est-ce qu'il faut l'éviter ?
Alors... on peut la privilégier si on a des signes de chaleur, en fait. Ces signes de chaleur vont se manifester sous forme de visage rouge, la soif intense, une urine foncée, hein, ça c'est vraiment du feu. On va aussi l'utiliser en cas de stagnation d'humidité, hein, c'est tout ce qui est sensation de lourdeur, des mucosités importantes. Alors, on peut aussi avoir un enduit assez épais sur la langue, ça c'est vraiment des signes d'humidité. On peut être aussi sujet à l'irritabilité ou aux insomnies hein, liées à une agitation du cœur. Alors là, dans ce cas-là, ça peut aider. A contrario, on va complètement l'éviter si on est sur ce qu'on appelle des vides de sang ou de liquide. Alors ça veut dire si vous avez une peau très sèche, les cheveux cassants ou si vous êtes très déshydraté, surtout pas d'amertume. Si vous avez aussi ce qu'on appelle la faiblesse de la rate, hein, je vous rappelle que la rate, c'est quand même l'organe principal qui fabrique l'énergie du corps et le sang du corps. Et dans ce cas-là, si on est en faiblesse de celle-ci, ben, l'excès d'amertume peut vraiment éteindre le feu digestif nécessaire à la transformation des aliments.
Et si jamais on n'aime pas la saveur amère ?
Eh oui, eh oui. Alors, il n'y a pas que les saveurs qui sont utilisées en diététique. Les Chinois s'intéressent également à la nature des aliments. Alors, en effet, l'un des plus anciens secrets de la diététique chinoise concerne la nature des aliments. C'est-à-dire que les aliments ont la capacité plus ou moins forte de réchauffer ou refroidir l'organisme naturellement. Et donc, on dit qu'il existe 5 natures. Froide, fraîche, neutre, tiède et chaude. Et comme la chaleur domine en cette saison, hein, l'été c'est vraiment la saison de la chaleur, la consommation d'aliments de nature fraîche, froide ou neutre va s'avérer très utile. Comme par exemple les tomates, les radis, les haricots, les pommes de terre, le poisson de mer, les œufs, viande de porc, les kiwis, les concombres, les melons, les figues, les menthes. Vous voyez, c'est des choses qu'on consomme déjà, hein, naturellement, on va les rencontrer dans notre assiette l'été. En plus, le mode de cuisson, hein, mine de rien, il influe sur les propriétés des aliments et notamment sur la nature. Parce que, par exemple, il faut savoir que la cuisson au barbecue va assécher les aliments et renforcer leur nature chaude. Alors, je sais bien, je vais pas me faire des amis aujourd'hui, mais le barbecue, c'est vraiment le repas convivial par excellence, que l'on va accompagner d'alcool, de tabac pour certains, et tout ça, c'est de la chaleur. En excès, en excès. Donc, à consommer avec beaucoup, beaucoup de modération.
Doucement sur les barbecues.
C'est ça. Alors, en clair, en été, nous devrions plus cuisiner à la vapeur ou faire braiser ou mijoter nos plats que les griller ou les frire. Allez, hop, les frites encore. Voilà, là, j'ai plus d'amis, ça y est. Donc, en présence de la chaleur estivale, privilégiez les crudités qui vont apporter plus de liquide au corps, bien évidemment. Alors, quelle que soit la saison, on est bien d'accord, les besoins de chacun reste tout à fait personnel selon l'état de santé du moment. Il faut aussi être vigilant à ça, mais vraiment comprendre que le cœur est l'organe du feu. Il éclaire les choses et les phénomènes, c'est le champ de la conscience. Alors moi, je vous encourage à vivre plus en conscience. Et même si l'été, selon les Chinois, correspond globalement à la période de mai à juillet, dès aujourd'hui, je vous conseille de prendre particulièrement soin de votre empereur.
Une jolie conclusion donc pour cette émission des Sentiers du Bien-être donc qui portait sur la saison d'été. Merci beaucoup Nadine pour tous ces bons conseils. Nadine Bertrand qui, je le rappelle, est acupunctrice au Centre Présence à Saint-Jean-en-Royans et qui nous propose donc cette émission plusieurs fois donc dans l'année en fonction des saisons. Donc pour les 4 saisons, plus on a fait une première émission sur les intersaisons. Vous pouvez réécouter d'ailleurs ces 2 premières émissions donc sur les intersaisons et sur le printemps sur le site internet de Radio Royan Vercors, radioroyan.fr. Et je vous rappelle donc le principe des Sentiers du Bien-être, c'est de vous conseiller pour adapter au mieux votre corps, votre mental et votre énergie donc aux saisons, et en se basant pour cela sur les principes de la médecine traditionnelle chinoise. Merci beaucoup Nadine et à très bientôt.
Merci à tous et merci à Radio Royan Vercors.